France Inter, le 18-20.
Bon alors on dit quoi? On dit 62, on dit 63, j'entends 64 à ma droite, faudrait pas pousser pour entendre 65, l'âge de départ à la retraite refait débat et les explications données depuis un épisode cafouillage au gouvernement n'ont pas vraiment arrangé les choses. 62 ans, c'est un peu un totem. Emmanuel Macron avait d'ailleurs dit pendant sa campagne « Non, on ne touche pas ». Depuis, on a entendu Agnès Buzyn pousser vers 63 et plus. Du coup, ici même, Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite, a parlé de « liberté de partir » qui reste à 62 ans. Fermez les guillemets, ça s'est passé d'ailleurs dans ce studio, ce qui n'est pas réellement pour rassurer les inquiets. On parle aussi de financement de la dépendance qui pourrait trancher ce débat. Bref, alors que la réforme global des retraites, les points, etc. Tout ça n'est pas encore tranché, loin s'en faut. L'âge a refait une apparition remarquée sur la scène politique. Venez donc nous parler de votre âge, votre retraite. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous la voyez? Quand la voyez-vous? Surtout, c'est le thème de ce soir. Et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Allez Michel, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue au téléphone sonne, Michel.
Allô, bonjour.
Bonjour, bonsoir. Allez-y Michel.
Alors tout d'abord, un grand bravo pour vos émissions. France Inter me tient compagnie du matin au soir quand je travaille pas, voilà. Donc, j'ai 62 ans, pardon, j'aurais bien aimé avoir 60.
C'est intéressant comme lapsus.
Gros lapsus. J'ai 62 ans, donc je pourrais éventuellement partir en retraite, mais je dois dire franchement qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout quoi faire. Je suis complètement déboussolée, parce qu'un jour, je lis dans les journaux que les 62 ans sont maintenus, mais que si on part à 62 ans, on va avoir une décote pendant 2 ou 3 années pour avoir après un bonus pendant 2 ou 3 années. Donc, c'est pas très clair. Ensuite, j'entends des gens dire « je vais partir à la retraite maintenant, parce que plus on va attendre, moins on va recevoir de retraite, de pension ». Donc voilà, moi je sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai intérêt à m'arrêter tout de suite et puis continuer une petite activité complémentaire pour arrondir un petit peu les fins de mois? Ou alors est-ce que je dois attendre en effet 63, 64, 65 pour espérer avoir une retraite plus grasse? Voilà, donc c'est un petit peu la chanson de la bergère qui fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Et je suis une bergère déboussolée.
Et vous allez donc au marché. Juste une question, Michel, avant de vous laisser. Vous avez vos trimestres ou pas?
Oui, oui, oui.
D'accord, vous avez vos trimestres complets. Donc, oui. si vous théoriquement et techniquement, effectivement, puisqu'en termes de trimestre, vous l'aviez, vous pourriez. Très bien. Merci beaucoup. Pardon, allez-y.
Je voudrais juste rajouter également une question, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir d'interlocuteur. Quand j'ai eu 55 ans, j'ai reçu un document qui me donnait un petit peu l'état de mes trimestres. J'avais appelé la caisse de retraite, une dame m'avait reçu, j'avais pris rendez-vous, et elle m'avait donné des conseils. Mais ça, c'était il y a 7 ans. Et aujourd'hui, tout se fait sur Internet. C'est très bien de faire des simulations sur Internet, mais je trouve que l'humain manque pour avoir des conseils.
Et dans votre entreprise, par exemple, Michel, après
non, rien du tout. Rien du tout.
D'accord. C'est une petite, une grosse?
Une moyenne.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour cette entrée en matière. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Et merci pour ça, Michel, pour essayer de répondre à vos interrogations, essayer de vous sortir un peu du brouillard et celui d'autres aussi. Éric Heyer est là. Bonsoir. Éric Heyer, vous êtes économiste à l'OFCE. Bonsoir à vous, Frédéric Sève. Vous êtes secrétaire national de la CFDT. Vous êtes chargé des retraites.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Michel d'abord dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de questions. D'abord le côté déboussolé, Éric Heyer, c'est vrai que il y a eu un peu des injonctions contradictoires, on va dire, et on peut comprendre qu'elle soit un peu dans cet état-là. Michel, pas savoir réellement où elle en est. Il y a beaucoup de questions autour de ça. C'est vrai qu'il y a eu un gros flottement toute la semaine dernière, quand même.
Il y a eu un gros flottement, effectivement. Enfin, alors, on peut quand même rassurer Michel. On a quand même l'impression que elle sera pas impactée, en tout cas, par ces changements-là, puisque globalement, effectivement, il faut rappeler que le président de la République, lorsqu'il était candidat, avait bien dit qu'on toucherait pas aux 62 ans, mais qu'il y aurait plutôt une réforme structurelle des retraites et qu'on passerait d'annuité, une retraite par annuité à une retraite par point. Et là, ça peut avoir des incidences sur votre retraite. Mais Michel sera pas impacté par ce type de réforme, en tout cas parce qu'il y aura la clause du grand-père et ça sera progressivement. Et donc, du coup, elle sera pas impactée. Alors ensuite, oui, effectivement, depuis quelques jours, on a l'impression que c'est pas uniquement structurel, mais on a que le gouvernement recherche un tout petit peu peu des milliards d'euros.
On n'est pas en train de mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud, honnêtement.
Oui, et puis surtout, ils sont en train de passer d'une logique, vous voyez, c'était ça la punchline, mmh. 1 euro cotisé ouvre des mêmes droits, donc ils essayent plutôt de faire un système qui est universel et unique. Là, sans avoir à toucher finalement au côté financier, et puis là, on a l'impression que ils recherchent quelques milliards d'euros, et donc effectivement toucher sur les pensions de retraite, sur la sous-indexation, ou pourquoi pas augmenter tout de suite l'âge de départ à la retraite, ça permettrait d'avoir quelques milliards. Mais pour assurer quand même Michel, effectivement, c'est pas très clair, mais elle devrait pas trop être impactée. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être pas elle qui sera la plus touchée. Vous voyez, les gens les plus touchés, c'est des gens qui, aujourd'hui, ont pas loin de 62 ans, mais qui sont au chômage et pas dans l'emploi. Donc, elle, le conseil qu'on peut lui donner, c'est que si elle est bien dans son emploi, si elle arrive tout de même à continuer à travailler, pourquoi pas réfléchir, effectivement, à travailler plus longtemps, si elle en a le courage, si elle en a l'envie, et si, dans son entreprise, elle se sent bien.
Et de toute façon, Frédéric Seff, très sincèrement, est-ce qu'on a ces chiffres-là? Je sais pas. Qui peut réellement partir à 62 ans? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'effectivement, pour arriver au taux plein, de toute façon, tous, autant que nous sommes, partons beaucoup plus tard que 62, qui est l'âge de l'ouverture des droits, en fait. C'est ça que ça veut dire, 62 ans.
Voilà, 62 ans, c'est l'âge minimum d'ouverture des droits pour l'ensemble des assurés. Il y a tout de même des gens qui partent avant. C'est ceux qui ont commencé à travailler tôt.
Et ça, c'est maintenu, par ailleurs. Quoi qu'il arrive, ce sera maintenu.
Et ça représente tout de même... alors malheureusement, évidemment, j'ai pas mes fiches, je saurais pas vous dire combien, mais c'est tout de même quelques centaines de milliers de personnes, c'est substantiel. Maintenant, il est vrai que la clause, je dirais la plus déterminante, c'est la durée de cotisation, et celle-ci, pour quelqu'un qui a commencé enfin quelqu'un de ma génération qui aurait commencé à travailler après 20 ans, 62 ans n'est pas accessible. Donc c'est pour ça que le débat sur l'âge en tant que tel est à replacer dans sa globalité. Maintenant, il faut le dire aussi, alors il faut dire à Michel que effectivement, elle ne sera pas concernée par la réforme, par exemple, du moins si elle est effectivement comme elle s'applique, comme on pense qu'elle va
s'appliquer,
comme
elle sait,
ou surtout telle qu'elle est décrite par le haut-commissaire, les mesures d'âge de même ne sont pas encore sur le tapis, puis ne s'appliqueraient de toute façon qu'avec distance, donc je reprendrai bien volontiers le diagnostic d'Éric Ayer, qu'elle réfléchisse effectivement à pour quelles raisons fondamentales elle voudrait rester partir à la retraite.
Ce que je trouve très intéressant dans la question de Michel aussi, c'est je ne sais pas si j'ai intérêt à partir ou pas, ou prendre un petit job complémentaire en fait pour faire le complément. Est-ce que pour ceux qui peuvent, parce que j'imagine que tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, mais est-ce que pour ceux qui peuvent, Éric Ayer, c'est devenu quasiment la norme en fait, pour beaucoup, ou est-ce que ça reste très marginal, ce raisonnement-là, celui de Michel?
Encore une fois, il y a ceux qui peuvent et ceux qui veulent.
On est d'accord.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu ça le problème. Rappelons quelques statistiques. Le taux d'emploi des personnes qui ont plus de 55 ans, entre 55 et 64 ans, c'est à peine 50%. Mmh. Ça veut dire qu'il y a la moitié des personnes qui aimeraient travailler, qui sont pas dans l'emploi, qui sont soit au chômage, soit en invalidité, soit dans des minima sociaux. Donc vous voyez, pour ces personnes-là, sans doute, surtout quand elles sont proches de 55 ans, elles aimeraient travailler, mais elles n'ont pas accès au marché du travail. Donc ensuite, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on peut encourager finalement l'emploi des seniors? C'est une singularité française, un taux d'emploi des seniors aussi faible, même s'il est en progression au cours de ces 10 dernières années, c'est à peu près 20 points en dessous de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc il y a une singularité française, c'est sans doute, c'est multifactoriel comme beaucoup de choses en économie, c'est sans doute lié au fait que les salaires, on augmente les salaires avec l'âge aussi, et donc il y a peut-être aussi cela à remettre dans la discussion. Mais effectivement, aujourd'hui, ceux qui sont en retraite et qui travaillent à mi-temps,
cumul emploi-retraite,
c'est à peine un tiers des retraités, donc c'est extrêmement peu, et c'est souvent ceux qui peuvent le faire qui le font, mais pas forcément ceux qui veulent
Frédéric,
le faire.
Frédéric, c'est pas avant qu'on retourne au standard.
Oui, très, très rapidement, deux choses. La première, ce qui est intéressant dans ce que dit Michel, je voudrais avoir une petite activité complémentaire. Ce qui s'exprime en fait, à mon avis, c'est moins le cumul emploi-retraite, autant que... principe, mais la volonté peut-être de sortir de l'activité de façon plus filée. Et c'est là qu'il nous manque, à la CFDT, mettons sur la table la question de la retraite progressive, qui ne concerne que 17 000 personnes par an. C'est possible, mais c'est très contraint. Là, manifestement, il y a des choses, et la réaction de Michel montre que les gens aimeraient peut-être pas partir à la retraite du jour au lendemain, mais effectivement quitter progressivement un emploi. Deuxième remarque, on a fait une enquête à la CFDT, c'était l'été dernier, une enquête en ligne, et on s'est aperçu qu'il y avait tout de même pas mal de gens, peut-être l'ordre de 15% des répondants, qui envisageaient effectivement de travailler le plus longtemps possible, pour le dire un peu rapidement. Et mais quelque part sans surprise, ce qui détermine l'envie de partir ou de rester, c'est la qualité de vie au travail en fin de carrière. Et c'est ça, je veux dire, plutôt que de parler de normes, de règles, si on veut, effectivement, supposer que ce soit un objectif, que les gens travaillent plus longtemps, ben, intéressons-nous à leur qualité de vie au travail.
Serge, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Serge, on vous écoute.
Bon, alors moi, j'ai eu plein de questions, j'ai 54 ans, je bosse depuis l'âge de 17 ans et j'ai pas envie de travailler jusqu'à 62 ans, donc j'aimerais bien rester à 60 ans.
Vous avez quel âge, pardon, Serge, on n'a pas entendu, quel âge vous aviez?
52 ans.
52 ans, d'accord.
54 ans.
D'accord. Décidément, tout le monde a du mal avec son âge ce soir.
Ouais, je sais pas dire, voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi je travaillerais 43 ou 44 ans, voilà. Quoi. J'ai eu le cas de quelqu'un que je connais qui a commencé à 14 ans à travailler. Vous voyez qu'à 57 ans, et c'est pareil, il va parler aussi jusqu'à 63 ans pour 24 ans. Quoi. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'en est-il des régimes spéciaux? Et la troisième question, c'est quand je vois que les présidents, ils bossent 5 ans, ils ont une retraite à vie, ou les députés, au bout de 2 législatures, ils ont une retraite aussi, pourquoi nous, il faut qu'on bosse 40, 42 ans, 43 ans? Voilà, madame.
Merci, Serge, pour vos questions. L'une après l'autre, Éric Kerr, vous aviez en partie répondu tout à l'heure, les très longues carrières, ceux qui ont commencé à travailler très tôt, 14 ans, 17 ans, restent avec leur système spécial, si je puis dire, pas besoin d'arriver jusqu'à 62 ans.
Oui, non, mais c'est pour ça que c'est un peu un leurre, la punchline, un euro cotisé ouvrira les mêmes droits. C'est qu'effectivement, on intégrera tout de même le fait que, enfin, j'imagine dans la réforme, même si on ne connaît pas aujourd'hui complètement les contours, on intégrera, me semble-t-il, assurément le fait d'avoir un métier pénible, des carrières longues. Enfin, donc tout ça sera pris en compte et c'est bien normal. Et donc c'est pour ça que il fallait pas parler d'un euro cotisé et ouvre les mêmes droits. Donc on tiendra compte de tout cela. Ce qui n'est pas assuré, c'est par contre les femmes lorsqu'elles ont des arrêts de carrière pour élever les enfants, ça aussi non, ça doit être pris en compte, mais c'est pas assuré. Mais voyez, donc c'est tous ces genres de phénomènes qu'il faudra prendre en compte dans des réformes, parce que il est normal que l'on intègre tout ça dans le calcul, mais ça va du coup mettre des spécificités pour tous les régimes, donc il n'y aura pas un régime unique. Alors ensuite, si vous voulez pas travailler autant, vous voyez que avec un système à points, si on considère que maintenant c'est quasiment acquis qu'on passera à un système à points, vous allez pouvoir partir sans doute un peu plus tôt, mais malheureusement avec une retraite qui sera beaucoup plus faible. Et donc ça veut dire que il va falloir compléter sa retraite par une épargne privée. Et donc c'est un peu ça le risque globalement. Et c'est pour ça que le gouvernement tient aussi à mettre un âge minimum, c'est-à-dire pour un tout petit peu interdire le fait de partir trop tôt pour se retrouver un peu démuni à la retraite avec des toutes petites retraites.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs, je voudrais d'abord qu'on réponde rapidement à la deuxième partie de la question de Serge, spéciaux. Les fameux régimes spéciaux, le fameux serpent de mer, oui, est-ce qu'on mettra le coup de pied dans cette fourmilière-là ou pas?
C'est un non-sujet maintenant, parce que facialement, dans certains secteurs, on a effectivement la possibilité de partir plus tôt, par exemple 57 ans au lieu de 62 ans, mais les durées de cotisation nécessaires convergent. Seront bientôt les mêmes pour tout le monde. Enfin, bientôt à des horizons différents, les mêmes pour tout le monde. Donc, pouvoir partir à 52 ans ou 57 ans, mettons, mais avec 43 ans de cotisation, vous imaginez bien, il n'y a pas grand monde dans les années à venir qui aura commencé à travailler à 14 ans. Donc, même si, encore une fois, en termes d'âge de départ, d'âge minimal, les choses peuvent rester différentes, dans la pratique, tout le monde partirait, enfin, aura à peu près les mêmes conditions d'âge. Donc les régimes spéciaux, c'est plus réellement un sujet.
On parlait des points à l'instant, effectivement, probablement qu'on s'achemine vers un fameux régime à points. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment il va bouger, ce fameux point, s'il bougera, comment, sur quoi il est indexé? Est-ce qu'on a au moins des choses extrêmement précises encore là-dessus ou pas?
Enfin, on a des exemples étrangers, mais globalement, ce qu'il faut peut-être pour que l'on comprenne un peu les grandes lignes. Oui, l'annuité, c'est globalement des prestations qui sont définies à l'avance. Alors, en gros, vous savez que si vous cotisez un certain nombre d'années, vous allez avoir un taux de remplacement et on peut vous le dire à l'avance. Lorsqu'on passe à point, c'est plus la prestation qui est définie, mais c'est plutôt la cotisation qui est définie. C'est-à-dire que globalement, ce qui est sans doute probable, c'est qu'aujourd'hui les recettes des retraites, c'est à peu près 14 points de PIB. On aura 14 points de PIB à redistribuer dans l'avenir, sauf que ça va dépendre ensuite du nombre de retraités qu'il y aura à l'avenir.
Et donc, 14 points de PIB par ailleurs de PIB, on est très très haut, si je ne m'abuse, par rapport à nos voisins.
Alors on est très très haut, mais haut. Il faut se méfier. Il faut quand même se méfier des comparaisons internationales parce que vous voyez, c'est on met ça dans des prélèvements obligatoires et tous les pays ne considèrent pas obligatoire de la même manière. Oui, enfin une assurance auto, est-ce que vous considérez c'est obligatoire, vous voyez, de vous assurer. Et pourtant, c'est pas comptabilisé comme une prestation, enfin comme un prélèvement obligatoire dans la comptabilité nationale. Et donc certains pays ne mettent pas, admettons, toutes les complémentaires dans le coût des retraites. Nous le faisons. Bon, donc c'est ça qui fait une grande différence entre la France et les autres pays.
Mais est-ce qu'on a des certitudes sur, pardon de revenir à ce fameux point, mais en gros, est-ce que ça veut dire qu'on peut partir à la retraite sur un point qui serait à tel niveau, et puis 5 ans plus tard, pour un tas de raisons, le voilà qui baisse, et donc voilà toutes les retraites qui cavalent dans l'autre sens. Est-ce que c'est possible, ça,
Frédéric? Il n'y a aucun système qui protège, qui vous garantit, aucun système en soi, que ce soit de l'annuité des points, des comptes notionnels ou des caramels mous, il n'y a aucun système qui vous garantit contre des manipulations des règles du système. Les systèmes en annuité, enfin, on a bien vu, ces 20 dernières années, ils ont été réformés, triturés, et de fait, le retour sur cotisation a baissé pour les générations qui ont pris leur retraite entre, on va dire, successivement de 93 à aujourd'hui. Donc, aucun mécanisme en lui-même. L'important, c'est qui pilote le système. C'est ça qui est important. Et effectivement, la différence, c'est savoir est-ce que ceux qui pilotent le système le font. Enfin, est-ce que c'est un pilotage, on va dire, étatisé, au risque, effectivement, il y a des transferts entre la caisse retraite et d'autres dépenses qui sont peut-être légitimes par ailleurs. Mm-hmm. Enfin, c'est pas pour. Quand on cotise pour sa retraite, on cotise pas pour la dépendance, on cotise pas pour d'autres choses.
Non,
ou
mais
est-ce que le système. La question est ça. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui pilotent le système sont garants d'une utilisation des fonds de la retraite aux fins pour lesquels ils sont dédiés, à savoir la retraite. Mais après, le reste relève d'autres choses.
Est-ce qu'il faut craindre, Éric, hier, une espèce de double injonction? C'est-à-dire, on a effectivement d'un côté, on nous explique que oui, non, le 62 ans, ça reste, on ne change pas, mais d'un autre côté, pour financer la dépendance, on le saura d'ailleurs jeudi, puisque ça vient très vite, c'est sur l'âge de la retraite qu'on va devoir travailler. Donc, est-ce que vraiment ce sont deux mondes qui font semblant de ne pas se connaître, alors que nous savons très bien que l'un est corollaire de l'autre? Est-ce qu'on peut entendre ce genre de choses d'ici à la fin de la semaine?
Non, mais on peut entendre qu'effectivement...
Pour financer la dépendance, il faudra travailler plus.
Bah oui. Bon, on l'a déjà un peu fait. Vous voyez qu'il y a déjà un jour férié qui est passé par là. Et donc, du coup, on peut considérer que c'est pas en augmentant la durée du travail alors annuel que l'on va jouer. Donc, c'est pas forcément sur les 62 ans, mais dire il y aura un jour férié qui va encore sauter et vous allez travailler pour la dépendance. Ça, c'est fort probable et c'est pas forcément à mettre en lien avec la réforme des retraites.
Karine, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Karine, allez-y.
Alors en fait, moi je voulais juste apporter juste mon témoignage et je vais essayer d'être la plus concise possible. Donc moi j'ai 47 ans, je suis enseignante et en ce qui me concerne, il me paraît logique d'envisager un allongement de la durée du temps de travail. On est évidemment en meilleure santé, on a un système qui est quand même, quoi qu'on en dise, extrêmement protecteur. Moi j'y suis très attachée et il me semble que cette dimension solidaire, elle est capitale. Et donc quand moi je dis que je veux travailler plus longtemps, c'est aussi pour participer à cette solidarité.
Deux choses, Karine. D'abord, vous avez 47 ans. Peut-être que vous direz autre chose quand vous en aurez 57. Allez savoir. Et du coup, mais est-ce que vous vous dites, moi, je me sens capable de travailler jusqu'à, j'en sais rien, 65, 66, 67. Est-ce que vous, dans votre tête, vous vous fixez une sorte de limite comme ça ou pas?
Alors, non, je ne me fixe pas de limite. En revanche, je pense que votre interlocuteur précédent a dit quelque chose qui résonne très fort chez moi. C'est qu'effectivement, je suis enseignante et je suis extrêmement épanouie et j'adore mon métier. Voilà. Et donc, je pense que ça participe aussi de cette envie de continuer à accompagner nos jeunes le plus longtemps possible parce que je me régale avec eux. Voilà.
Merci Karine. Et merci de vous régaler avec vos jeunes que vous dites. Frédéric Sepp, c'est vous qui disiez ça, je crois, tout à l'heure, si je ne me trompe pas.
Effectivement, l'idée que la qualité de vie au travail aide, ouais. Oui, effectivement, c'est un des déterminants majeurs de la décision de rester ou pas. Mais je voudrais, c'est très bien que Karine soit bien dans son travail en tant qu'enseignant, enfin qu'ex-enseignant. Je la rejoins volontiers dans ce plaisir qu'il peut y avoir à exercer ce métier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, la retraite en France, France est fondée sur le travail. C'est parce que les droits sont tirés du travail. Or, on n'est pas égal devant le travail. Quelqu'un qui a un métier pénible ne peut, même s'il aime son métier d'ailleurs, le métier peut être pénible, on peut l'aimer, mais il est pénible, usant, donc on ne peut pas l'exercer aussi longtemps. Ceux qui ont travaillé tôt n'ont pas forcément le même rapport, alors peut-être pas au travail, mais à l'âge. Quand on a commencé à 14, 15, 16 ans, on peut s'épuiser plus vite, se fatiguer plus vite de son travail que quand on a commencé à 21, 22 ans. Et certains qui aiment bien leur métier, mais qui arrivent plus à l'exercer parce qu'ils sont au chômage, parce qu'il y a eu des reconversions. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça. C'est le message que la CFDT martèle au commissaire. Il faut que le système de retraite, bien sûr qu'il doit avoir des règles générales. Pour être juste, il faut avoir des règles générales. Mais il faut faire aussi un peu de sur-mesure. C'est-à-dire s'adapter aux situations réelles des gens et du rapport réel qu'ils entretiennent avec leur travail.
Eric Ayer, est-ce qu'on s'achemine vers un sur-mesure précisément, ou est-ce qu'on s'achemine aussi vers une forme d'uniformisation? Vous le disiez tout à l'heure, un euro cotisé, un euro gagné, mais est-ce qu'on est dans cette perspective d'une uniformisation, tout le monde sur la même ligne et je vais voir qu'une tête?
Alors, non, il y a globalement une uniformisation qui se prépare, mais avec des cas particuliers. On sera obligé de mettre ensuite, de tenir compte de la pénibilité, d'un certain nombre de critères, d'accidents de vie dans la carrière, etc. Donc ça, il me semble que c'est important. Mais pour revenir sur le cas de Karine, il faut quand même bien dire qu'effectivement, l'espérance de vie en bonne santé augmentant, il est relativement bien accepté que l'on travaille un peu plus longtemps. Et d'ailleurs, les réformes successives poussent finalement à des annuités. Rappelons-le, on était à 37 annuités et demie, on va aller jusqu'à 43 annuités de travail. Donc ça prend bien en compte le fait qu'il y ait une augmentation de l'espérance de vie. Donc il est normal qu'on travaille un peu plus longtemps. Moi, il me semble que là où on peut aller sur du sur-mesure aussi, et c'était très intéressant votre remarque effectuée à Karine, c'est qu'effectivement à 44 ans, on se sent encore plein d'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait imaginer que les professeurs, en vieillissant, perdent un peu d'énergie et qu'on leur redonne une autre façon. Donc ça a été dit précédemment, soit on leur réduit leur temps de travail à la fin, soit même on leur donne une nouvelle tâche. Moi, il me semble que dans tous les métiers, on devrait réfléchir aussi à cela, c'est-à-dire que vous voyez, enseigner à des élèves, c'est extrêmement fatigant, c'est même éreintant. Alors donc c'est passionnant, bien entendu, mais c'est fatigant.
Donc, organiser une deuxième carrière, en fait.
C'est-à-dire que globalement, ça pourrait être former des professeurs, ça pourrait être faire du soutien scolaire. Enfin, on ne réfléchit pas comme cela. C'est-à-dire qu'on réfléchit à la retraite, mais on ne réfléchit pas comment on peut, faire changer un tout petit peu l'emploi des seniors entre guillemets. C'est-à-dire plus en vieillissant, on pourrait changer. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour des conducteurs de camions, etc. On a l'impression c'est voilà, tu as été conducteur de camion, tu le seras tout le temps. Non, on peut sans doute dans des entreprises essayer d'aller vers un emploi qui soit plus adapté finalement à la situation de la personne. Et l'âge fait partie des situations qu'on doit prendre en compte.
Et ça va dans le sens de la question de Jean-Marc sur le hashtag Telson qui nous dit « Moi, j'ai pas voulu partir à la retraite parce que je m'ennuyais trop, donc j'ai repris un autre travail. » Alors pareil, on est dans le même cadre que quelqu'un comme Karine, évidemment, mais tout ça nous amène à, j'allais dire, un corollaire, une autre question, et c'est vous qui allez la poser. Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors, moi, ma question, elle est assez simple, elle est la suivante. On est dans une société où il y a à peu près 8-10% de chômeurs, et pour autant, on maintient et on prolonge les gens qui sont en activité. Or, la logique voudrait qu'on libère des places, en fait, pour ces gens qui, soit qui ne travaillent pas, soit qui arrivent sur le marché de l'emploi.
Voilà, donc merci beaucoup Emmanuel pour votre question. Remarque logique derrière, effectivement. Et là, c'est à Karine qui veut pas partir, à Emmanuel qui dit qu'il s'ennuie s'il travaille pas. On répond Eric Ayer, bah oui, mais chacun son tour et chacun sa place.
Oui, non, mais il y a plusieurs points. C'est-à-dire que ça marche pas tellement. Enfin, c'est vrai qu'on aimerait cette idée de.
Il y a pas de vase communicant. Vous voulez dire, c'est évidemment plus compliqué que ça.
C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on a tenté cela. On a tenté avec les pré-retraites. Le résultat était pas très probant. Là, ce que l'on observe avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, c'est que ça fait augmenter le chômage. Oui, bien sûr. Mais ça fait augmenter aussi le taux d'emploi des seniors. Donc il y a le côté face et le côté pile de la réforme. Le côté pile, c'est bien que le taux d'emploi des seniors augmente. Encore une fois, on a un taux d'emploi le plus faible des grands pays. Je crois qu'il y a la Belgique qui fait moins bien que nous, mais sinon il y a pas pire que nous. Donc il faudrait encourager les seniors à rester un peu plus longtemps dans l'emploi pour permettre de financer un peu mieux aussi les retraites, mais même l'activité au sens large. Dans le même temps, et c'est le côté face, les entreprises, ne retiennent pas ces seniors et même aiment bien s'en débarrasser. Alors, et donc du coup, les seniors qui sont au chômage, malheureusement, lorsque vous augmentez l'âge de départ à la retraite, ils passent encore plus de temps au chômage, ou alors ils passent un peu plus de temps en invalidité, donc c'est pas une bonne chose. Et même financièrement, c'est pas dit qu'on gagne grand-chose, puisque peut-être on gagne d'un point de vue des retraites, mais on perd d'un point de vue du chômage et on perd d'un point de vue de la maladie. Donc finalement, quand on fait l'addition, à la fin, c'est pas tellement bon pour les finances publiques.
Frédéric Sève.
Oui, je suis d'accord. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que quand on allonge l'âge de la, enfin, quand on recule, pardon, l'âge de la retraite, quand on allonge l'âge d'activité, on voit monter, ça fait l'objet d'une, la polémique que vous savez il y a quelques temps, on montait par exemple les arrêts maladie. C'est effectivement les personnes de plus de 55 ans qui subissent, et on le comprend bien, les arrêts maladie. Donc c'est pas, je crois qu'il faut pas, mais peut-être même dans les deux sens, si vous voulez. Le but, faut se le dire quand même, nos systèmes de retraite, ils sont sortis des périodes un peu compliquées des dernières années où il fallait, alors où ils montaient en charge dans les années 50, 60, où il fallait faire des économies pour surmonter des chocs démographiques. Là, on est devant la période qui s'ouvre, elle est quand même beaucoup plus calme, enfin calme au sens démographique, il y aura moins de changements majeurs. Donc, il faudrait revenir autant que possible à des systèmes de retraite qui disent les choses clairement pour les gens. Qu'on ne manipule pas. L'important, c'est d'être clair sur les droits que les gens auront à la retraite et qu'on ne manipule pas trop les paramètres pour que ce soit financer la dépendance, faire reculer le chômage ou que sais-je.
Mais attendez, vous dites plus calme. Est-ce que vous pouvez dire là à quelqu'un qui nous écoute et qui a entre 30 et 35 ans, aucun problème, dans 30 ans, quand tu prendras ta retraite, le système non seulement sera toujours là, mais surtout il sera viable, y compris financièrement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça, Éric Heyer, à quelqu'un qui a 30 ou 35 ans?
Oui, le système est financièrement viable. Alors, sans doute, il y aura... Là, aujourd'hui, les projections du corps sont toujours un peu hypothétiques, puisqu'il faut mettre des hypothèses de productivité, de chômage, etc. Mais globalement, on sait que ça sera soit à l'équilibre, soit en léger excédent, soit en léger déficit. Donc globalement, on jouera sur des paramètres, mais il est viable. Ce qui est plus problématique, c'est quel est finalement le pouvoir d'achat du retraité en 2070. Le système existera toujours, mais est-ce qu'il permettra, comme aujourd'hui, d'avoir un taux de pauvreté à la retraite extrêmement faible, ça sans doute pas. Les projections du corps nous disent que globalement, un retraité va perdre à l'horizon 2070 entre 20 et 30% de pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, les retraites existeront toujours. Est-ce que ça sera par points ou par annuité? Mais en tout cas, le système existera toujours. Il sera financièrement viable, donc il n'y aura pas de faillite, mais attention, avec un pouvoir d'achat à la retraite qui sera beaucoup plus faible.
Donc s'il n'y a pas eu de capitalisation en même temps, Frédéric Sève, ça marchera beaucoup moins bien.
Je peux permettre pouvoir d'achat sera plus faible, enfin c'est le pouvoir d'achat relativement au salarié qui sera plus faible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que le pouvoir d'achat des pensions va baisser, non. Mais si vous voulez, les salariés vont s'enrichir, pas les retraités. Donc c'est relativement, mais cela dit, c'est significatif quand même. Après, est-ce qu'il y a besoin de capitalisation? Non. Je pense que le meilleur système, c'est la répartition, et il fait la démonstration, parce qu'il a quand même passé des chocs terrible, il fait la démonstration qu'il peut passer ses chocs et assurer une retraite pour tous et sur plusieurs générations.
Vous disiez tout à l'heure, Éric Heyer, on ne retient pas nos plus vieux dans les entreprises. Ouais. Je voudrais qu'on écoute Christian. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
On vous écoute Christian, allez-y.
Bravo pour vos émissions.
Merci Christian.
Oui, alors justement, moi je suis à 60 ans, on ne m'a pas donné le choix. On m'a dit, écoutez, vous avez 60 ans, vous avez tout votre trimestre, vous pouvez partir. J'ai dit, moi je voudrais rester une ou deux années de plus. On m'a dit, non, vous avez tout votre trimestre, vous partez. Ce qui fait que ça m'a complètement, ça m'a baissé mon pouvoir d'achat au niveau de la retraite, et donc il a fallu que je trouve des petits boulots. Ça n'a pas été facile, quoi.
Et lorsque vous disiez, vous travaillez dans quel type d'entreprise, Christian?
Je travaillais dans la fonction publique, j'étais aide-soignant.
D'accord. Merci beaucoup pour cette question, Éric Heyer ou Frédéric Sève, l'un comme l'autre. En fait, quand on est dans ce genre de profession-là, comme Christian, aide-soignant, fonction publique...
Je me garderai d'expertiser comme ça des situations individuelles avec si peu d'informations. Il faudrait regarder. J'invite Christian à joindre son union départementale CFDT ou d'aller sur le site cfdt.fr pour trouver les informations, encore que maintenant le coup est parti, si j'ose dire. Je suis un peu étonné qu'on ait pu le pousser à partir. Alors, le pousser réglementairement, ça m'étonnerait. Après, il y a matière à pousser les gens sans que ce soit forcément réglementaire. Non, c'est effectivement triste de forcer les gens à partir, surtout des personnels soignants qui... Là, pour le coup, on a un métier difficile, un métier pénible. Quand on a qui veulent rester, c'est tout de même dommage.
Et alors, à l'inverse, voilà Sylvie, qui a 58 ans. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Bonsoir à tous, bravo pour les émissions. Voilà, moi j'ai 58 ans et en fait j'aurai mes trimestres, mes 168 trimestres à l'âge de 59 ans. Est-ce que, ma première question, est-ce que je peux partir avant les 62 ans et dans quelles conditions? Et mon entreprise pense me licencier l'année prochaine. Donc est-ce que quand on a acquis déjà ses trimestres, on peut toucher le chômage ou pas?
Une question avant d'essayer d'y répondre avec nos invités. Vous travaillez depuis quel âge? Sylvie?
Depuis 18 ans.
Depuis l'âge de 18 ans. Donc on est considéré là dans une carrière longue, c'est ça? C'est ça l'idée. Merci beaucoup Sylvie. Frédéric Seff, pour essayer de l'aider.
Pour autant que je puisse voir, encore une fois, c'est pas facile d'expertiser à distance, mais effectivement, si madame a tous ses trimestres, elle peut partir, elle peut liquider sa retraite au taux plein, comme on dit, elle n'a plus droit au chômage, normalement. Donc effectivement, il y a une contrainte qui est assez paradoxale, hein, vis-à-vis, qui peut même être d'ailleurs très, très douloureuse pour les personnes en termes de niveau de rémunération, parce qu'effectivement, on n'a pas la possibilité, quand les retraites sont petites, le taux plein, ça reste quand même une petite retraite.
Moi, Eric Hier, je suis frappé, en fait, moi j'aime bien l'idée que les gens nous appellent avec leur cas particulier, à chaque fois qui est forcément toujours un peu compliqué parce que c'est vraiment chaque cas particulier, mais ce que ça veut dire, c'est que on manque terriblement d'informations, ça veut dire que les entreprises, à certains égards, font pas leur boulot en fait, parce que ça a elles peut-être aussi de donner ce type d'informations. Comment se fait-il que les gens soient aussi perdus sur les âges, les trimestres, ce qu'ils toucheront, etc. Qui fait mal son boulot là-dedans? Ou nous, peut-être en partie, hein, j'en sais rien.
Non, c'est compliqué parce que l'information existe, ça, mais effectivement, c'est un peu complexe, ça bouge souvent, et donc on s'y intéresse peut-être pas vraiment avant d'être pas loin de partir à la retraite. Non, mais c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, parce que effectivement, si c'était mieux expliqué, on aurait moins d'anxiété. Peut-être que effectivement l'idée que le système n'est pas viable financièrement et qu'on pourrait ne plus avoir de retraite, c'est une idée qui est bien répandue,
alors qu'elle
est absolument pas fondée. Mais moi, je trouve qu'on a fait pourtant beaucoup, beaucoup de progrès en termes de communication. Je pense que le Conseil d'orientation des retraites, c'était une excellente idée parce que vous mettez autour de la table tout le monde, tous les partenaires sociaux, les experts, les citoyens, et il y a un nombre de documents réguliers qui sont extrêmement bien faits, certains peuvent être discutés, mais donc je trouve que l'information est là. Elle est peut-être pas bien assez expliquée, donc c'est un défaut de pédagogie sans doute des experts.
Il y a une obligation de l'entreprise normalement à faire ce genre de travail, au moins dans les grosses comme la nôtre par exemple, ou pas, Frédéric Seff?
Je pense que permettez de revenir un tout petit peu en arrière sur la question, sur l'intervention. Il y a deux choses. C'est difficile d'informer les gens parce que le système est complexe tout de même. Hein. Les situations sont souvent diverses. C'est là pour le coup l'information, c'est du sur-mesure. Mm-hmm. Hein. Donc faut quand même rendre hommage aux salariés de la retraite complémentaire, de la CNAV qui font le travail. Mais moi je le veux. Et on a fait des progrès en matière d'information. Il y en a sûrement encore à faire. Mais c'est peut-être souvent, je dirais, de l'accompagnement qui manque. C'est-à-dire que souvent les gens découvrent les conditions de leur retraite les deux dernières années. Donc au moment où il est trop tard pour faire des choix. Donc c'est ce qui manque peut-être le plus, ce qu'il faudra sans doute construire à l'avenir, en tout cas la CFDT le porte, c'est de donner des informations très en amont de la retraite pour que les gens, encore une fois, puissent faire les choix en fonction de ce que ça va produire. Parce que c'est quand vous avez décidé de travailler à temps partiel, si on vous a pas informé au moment où vous décidez de travailler à temps partiel que ça aurait été l'instant de la retraite, quand vous êtes arrivé à l'âge de la retraite, c'est trop tard pour ne pas choisir de travailler à temps partiel. Donc c'est cette anticipation qui manque peut-être. Et effectivement, dans l'enquête que j'étais là, on a constaté que 5 ans avant l'âge, le départ à la retraite, il y a encore une grande majorité de gens qui ignorent les conditions qui seront les leurs au moment de la liquidation.
Eric, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Eric.
Je suis surpris par la dernière intervention parce que c'est vrai que on peut toujours espérer l'information des travailleurs, mais elle n'a pas toujours eu lieu et elle n'a toujours pas lieu, et même par le principal employeur en France, qui est l'État. Je suis fonctionnaire depuis maintenant plus de 36 ans. Il y a eu deux réformes des retraites en 2003 et en 2009. Et j'ai eu le droit de connaître mes droits avec les deux réformes le 9 octobre 2018, je relis les papiers qui sont sous mes yeux. Et j'aurais pu partir de par mon statut à 55 ans et de par les doubles réformes, et je n'emploierais pas le terme d'impacté, j'emploierais le terme direct, de directement touché par une privation de droits qui était la mienne quand je suis rentré dans la fonction publique. J'ai perdu le service actif. Alors ne faisons pas croire aux gens les métiers les plus pénibles, et j'ai eu un métier pénible puisque j'ai travaillé pendant 16 ans en foyer en hébergement avec des mineurs en difficulté sociale ou délinquants, et que je n'ai aucune prise en considération de cette perspective de travail qui m'a amoindri mes capacités professionnelles, puisque je suis à l'heure actuelle en difficulté et en situation d'adaptation d'emploi, et je n'ai aucune adaptation d'emploi qui m'est proposée. Et je n'en entends rien parler dans les nouvelles réformes actuelles, et je serai non pas impacté, mais je serai directement touché par une perte de revenus très conséquente, puisque je serai polypensionné, et j'ai commencé à travailler à 17 ans, mais j'aurai une retraite de la fonction publique, si les estimations sont justes, mais elles n'ont pas été vérifiées, de moins de 1 600 euros.
Merci Eric pour ce témoignage. Eric Ayer, qu'est-ce qu'on peut dire à Eric?
C'est très difficile. Alors là, moi, je suis incapable de lui répondre avec précision, parce que, enfin, globalement, l'information, enfin, il y a sans doute des manques d'information, sans doute c'est, mais à partir de 50, 55 ans, on reçoit normalement une information qui nous explique à peu près l'état des comptes, et normalement, il y a des informations qui sont disponibles. Alors peut-être qu'il faut une meilleure explication de tout cela. Alors quand on est polypensionné, bien entendu que c'est extrêmement complexe de reconstituer sa carrière et de savoir exactement ce à quoi on a droit. Donc, alors c'est sûr que là, pour le coup, une réforme à point faciliterait un tout petit peu ce genre de cas de figure où on est polypensionné et où un point normalement aura à peu près la même valeur quel que soit le secteur. Donc, mais oui, bon, bah, il y a, ça a été dit. Et c'est, aujourd'hui, le système est complexe. Alors, c'est pas parce qu'il est complexe qu'il est mauvais, mais quand il est complexe, il faut beaucoup plus d'explications, sans doute, et c'est sans doute un manque aujourd'hui en France.
Allez, il nous reste à peine plus d'une minute. Skander, bonsoir.
Oui, bonsoir, je vais faire vite.
Ouais, merci beaucoup.
Donc, une première remarque, c'est que l'administration et les fonctionnaires profitent d'une garantie de l'emploi, ce qui est normal de mon point de vue, ce qui veut dire qu'en fait, les gens qui travaillent dans le privé, de plus en plus vont être face à des situations où ils vont certainement faire un passage par le chômage. Et donc, ma question est double. La première, c'est comment ceci est pris en compte, et est-ce qu'il y a une équité dans l'objectif de calcul des points, de leur valorisation, pour que le chômage soit revalorisé compte tenu du nombre de CDD, par exemple, pendant quelques mois par un fonds privé, par un fonds particulier, par exemple, sur le salaire du dernier travail fait, pour que les gens ne pâtissent pas de cela, et ça moindrirait en fait les problèmes d'inquiétude sur la retraite à venir. Et d'autre part, est-ce que dans ce calcul de points, le point de la personne fonctionnaire et le point de la personne dans le privé ont la même valeur, seront calculés de la même manière, et donc en fait la fonction publique ne serait plus une retraite particulière,
merci.
Ce serait la retraite comme tout le monde.
Merci beaucoup, pardon Frédéric Sèvres, il faut répondre vite.
Très vite, donc je vais sur la première partie. Ouais. Dans ce que nous portons, nous CFDT, auprès du haut commissaire, et ce qui me semble au commissaire à acter, c'est l'idée qu'effectivement, quand on est au chômage, on n'a pas ce qu'on appelle nous de double peine. C'est-à-dire que certes, déjà au chômage, on perd du revenu, mais qu'on ne perde pas de droit à la retraite. C'est-à-dire que pendant la période de chômage, quelqu'un d'autre, en l'occurrence l'UNEDIC, enfin qu'un tiers, cotise à la place des personnes au chômage pour lui maintenir ses droits.
Et très très vite, question, réponse oui ou non, point privé, point public, même point, même motif, même punition.
Oui, normalement oui.
Voilà, merci beaucoup, merci à tous et portez-vous bien.